Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, l'émission la plus éclairée de la nuit. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, où chaque jour, de 22h à 23h, toute la scène française se donne rendez-vous. C'est Côté Club, l'actualité musicale, à podcaster évidemment. Ce soir, chant de marin avec François Morel et une sirène, elle, Raphaël Lanader. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
François Morel qui chante Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton, mort en mer à 30 ans en 1920, parce que c'est pas l'homme
1900.
Qui prend la... 1900.
Ah, voilà,
oui,
c'est ça.
C'est marqué sur la couverture. 1900, parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme, comme dit l'autre. Exercice d'admiration pour notre chroniqueur maison qui, bonus, se fend d'un dictionnaire amoureux de l'inutile, de A comme Académie française jusqu'à Z comme Zoo, en passant par C comme chanson. À vos côtés, elle, alias Raphaël Lanader, à moins que ce soit le contraire, 10 ans de musique cette année, et un nouvel album Paysage, hanté par Billie Holiday, Adèle Haenel, Sakine Kanziz. Elle fait entendre sa voix d'artiste émancipée. Marion ?
Un zoom sur un disque à la ligne Chanson d'usine. C'est un disque radical, il est signé Michel Cloupe, Pascal Boisise, et il est adapté du livre de Joseph Pontus.
Et bien voilà, vous savez tout, ou presque, hein. Maintenant on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
François Morel et elle en studio, question inaugurale comme au Collège de France. Vous vous connaissiez ?
Alors moi je ne connaissais pas.
Ben moi je vous écoute le matin.
Mais moi je suis très âgé, donc il y a plus de raisons qu'on me connaisse.
Oui c'est ça, c'est la longévité qui crée la notoriété. Ça ne tient qu'à ça.
Ben oui.
C'est bien ça que vous voulez nous dire.
Moi c'est l'insistance. Moi, ça fait,
la répétition.
Je suis accroché. Hein.
Combien de temps de la France Inter, ça fait combien de temps?
Mais là, c'est la 12e année.
Ah, c'est ça,
il y a 2 ans, j'avais dit à notre directrice Laurence, il serait peut-être
Laurence
temps que j'arrête.
Bloch, ouais.
Laurence Bloch. J'ai dit, eh ben, il serait peut-être temps que j'arrête là maintenant.
Et elle vous a dit, je vous l'interdis.
Du mot, tu veux pas rester? Oh, ben voilà, alors je dis oui, si tu veux. Mais non, ben oui, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter les frais.
Bien sûr. François Morel, comédien, chroniqueur du vendredi sur France Inter, chanteur avec un album, Tous les marins sont des chanteurs. La carrière de chanteur, ça commence, on va dire, presque au milieu des années 2000, avec le spectacle Collection particulière. Quel chanteur rêviez-vous d'être, François Morel ?
Plutôt un chanteur à texte. Vous parliez tout à l'heure, hors studio, de Francesca Solville. Je me souviens que j'avais vu Francesca quand j'avais 13 ou 14 ans dans mon petit club, l'Albatros. Et ce sont des gens qui m'ont marqué parce que ça m'a fait venir un peu à la poésie. J'aimais bien ça. Il y avait un auteur, il y avait plein de gens qui passaient comme ça. Par exemple, Marc Augeret. Je sais pas si ça
si, Marc Augeret, bien sûr. Ouais, ouais.
Et
donc, c'est une grande tradition.
Marc Augeret, c'était une très belle voix, très chaude d'ailleurs, qui chantait les chansons de la commune notamment. Et il s'était déplacé dans notre petit village, invité par monsieur Jean-Claude Collot, de la jeunesse et des sports. Et il y avait Jean-François Panet, par exemple, qui est un type qui a fait de la radio après à la RTBF, je crois. Ou peut-être que je dis n'importe quoi.
Non.
Mais en tout cas, dans un pays limitrophe de la France, et il disait des poèmes de Jean Tardieu, de Prévert, et aussi des sketchs de Robert Lamoureux. J'aimais beaucoup le mélange de tout ça. J'aime bien l'absence de hiérarchie dans les styles.
C'est tout à fait la carrière que vous avez eue par la suite, en fait. C'est une définition, c'est ça, ça a été fondateur.
Je crois que j'ai eu des émotions jusqu'à 14-15 ans, et après j'ai tout fait à partir de ces émotions-là. Mais c'est vrai, en plus.
Vous avez eu une formation pour chanter ?
J'ai un professeur de chant.
Toujours ?
Oui, enfin, je la vois de temps en temps, pas assez. Elle m'engueule régulièrement parce qu'elle trouve que je vais pas assez la voir, mais je trouve que j'ai fait un peu de progrès par rapport au début. En revanche, la première fois quand je suis monté sur scène pour chanter, j'avais demandé à Jean-Michel Ribes de faire la mise en scène.
Tout à fait, ouais.
Parce que je lui avais dit, si vraiment le chanteur que je suis est trop minable, je vais jouer le rôle d'un comédien qui voudrait être chanteur et qui n'y arrive pas. C'était un projet de spectacle comme ça. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et j'ai pris tellement de plaisir à chanter parce que aussi j'ai fait des belles rencontres avec des musiciens que j'adore. Enfin, c'était Reinhard Wagner sur le premier disque, et c'est Antoine Salaire depuis trois disques.
Puis il y a eu des spectacles aussi avec l'Allemand.
Ouais.
Donc vous avez été entouré.
Je me suis bien entouré. Je me suis bien occupé, moi.
Elle, avant de signer votre premier album en 2011, vous aviez étudié des chants corses, yiddish, tzigane, bulgare, le gospel, le fado, à l'école Globetrotter, c'était à Paris. Qu'est-ce que vous avez appris sur le plan technique qui vous sert encore aujourd'hui ?
Oh, tout ce que je sais, à peu près. Non, il faut dire que la directrice de cette école, les Globetrotters, s'appelle Martina Catella, et que c'est un soleil et une grande technicienne extrêmement précise, et elle est ethnomusicologue.
Et on y entend de tout, hein, dans cette école.
De tout, des chants du monde entier.
Chants pygmées.
Exactement. Ouais. Et c'est très formateur, je crois. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé.
C'est-à-dire, vous êtes plus venu à la chanson par le son, par les musiques que par les textes, par exemple ?
Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, la chanson, j'y étais venue avant.
Ouais.
Depuis toute petite. Il y en avait beaucoup, on en écoutait beaucoup à la maison. Donc moi, je suis vraiment venue à la chanson avec Brel et Barbara. Et un peu plus tard, Ferré. Ouais.
D'ailleurs, vous avez chanté les grands classiques.
Même bien sûr.
Avant même d'enregistrer le premier album, Ferré, Barbara, premier album à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas trouver votre style, justement ?
Je ne crois pas. Enfin... Au tout début, j'ai mis du temps à écrire, parce que justement j'avais tout cela en tête et que ça me semblait une entreprise assez démente, et puis que je me disais, oh, à quoi bon ? Enfin, tout a été dit quand même à peu près, et je voyais pas trop. Et puis finalement, à force de faire, ça m'a drôlement plu, ça m'a émue, et de le faire, et de les faire écouter, et la réaction des gens, et alors finalement, je me suis accrochée.
Vous avez tous les deux en commun d'avoir écrit pour d'autres, alors j'ai choisi deux titres de la même époque, 2011-2012, pour des chanteurs très populaires, chacun va reconnaître le sien.
Car du temps des cerises, où tu n'aimais que moi et qui s'enfuit déjà, les cigales s'en foutent, les cigales s'en foutent. Oui, du temps des cerises, où j'étais tout à toi, les cigales au mois d'août. Ne se souviennent pas, ne se souviennent pas, les cigales s'en foutent.
Pour qui ? Pour vous, Raphaël Lanader.
Patrick. Qui d'autre ?
Patrick Bruel, oui. C'est lui qui vous a commandé une chanson ?
Oui, tout à fait. Il m'a invité à une émission de Michel Drucker, parce qu'il avait aimé beaucoup mon disque. Il est venu me voir dans les loges et m'a demandé... Si ça me ferait plaisir de lui écrire une chanson, et que j'avais carte blanche, alors j'étais très heureuse, parce que moi, quand j'étais gamine, dans mes trois premiers disques, il y avait un double album de Patrick Bruel. En plus, à l'époque, on savait pas qu'il avait des démêlés avec les masseuses, et j'étais d'autant plus heureuse. Je pense que maintenant, ça
serait plus difficile pour vous maintenant.
En pensant à lui, ou c'était une chanson que vous auriez pu chanter vous ou...
Non, c'était vraiment pour lui,
ouais.
Je crois.
Comme quand vous écrivez.
J'ai vraiment écrite pour lui.
Comme quand vous écrivez pour Camélia Jordana ou Julien Clerc. C'est vraiment des chansons qu'elle écrit pour les autres. Ouais. Pourquoi vous posez cette question ? Parce que vous, quand vous écrivez pour les autres, c'est des chansons que vous pourriez chanter ?
Non. En général, non. Mais parfois, je les chante après. C'est-à-dire que j'aurais pas osé forcément les chanter moi-même. Je les aurais pas écrites pour moi. Mais quand elles existent, je me dis, et pourquoi moi je chanterais pas ça ? Pourquoi je m'autoriserais pas à le faire ?
Eh ben, vous avez écrit celle-ci, par exemple.
C'est sur la face B. Il cachait son chagrin, comme on garde un secret dans le creux de sa main. Confidentiellement, il chantait à mi-voix ses émerveillements, ses doutes et ses effrois. Dites-moi.
Vous avez reconnu Raphaël Lanader, l'interprète ?
La voix, oui.
Ouais.
Morane, oui.
Vous avez écrit pour Juliette Gréco, pour Francesca Solville, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'on a reçu ici l'automne dernier.
J'ai pas écrit pour Francesca, elle m'a emprunté une chanson que j'avais déjà chantée.
Et Morane, donc ? Et ça, Morane, c'est une chanson pour Morane.
Oui, En fait, c'était, je crois que au départ, c'était une chronique pour France Inter. Je récupère tout. J'avais fait un hommage à Henri Salvador quand c'est il ça. Était venu au Fou du Roi au début des années 2000. Et j'avais gardé ce et je me souviens qu'à la fin, il était en larmes, ce pauvre Henri. Et je m'étais dit, et puis j'avais gardé, puis je m'étais dit, tiens, ça pourrait faire une jolie chanson. Et je l'ai retravaillé après avec Antoine Salaire qui a rajouté un refrain. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et je crois qu'elle avait envie aussi de rendre hommage à Henri Salvador.
Salvador aussi.
Et puis il y avait une autre chanson que j'avais écrite pour elle aussi. Non,
Pas belle.
Pas belle, ouais.
Ouais, c'est un texte de.
Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après, quand la chanson a été faite, je me dis, oh, peut-être j'ai le droit de la chanter.
Ouais, vous l'avez intégrée dans votre répertoire. Ouais. C'est vous qu'on va entendre maintenant dans un duo avec Bernard Lavilliers. C'est la chanson qui donne son titre à ce nouvel album. Tous les marins sont des chanteurs. On en parle après.
Pour raconter la solitude, le vent qui souffle, l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs, banananiam, baniam, babam. Tous les marins sont des chanteurs, nananadiam, bananiam, nananiam. Pour décrire la fille au village qu'on a laissée un matin gris, la vaïnée sans son corsage, nous souvenir de Tahiti. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Pour emporter dans sa mémoire les tempêtes, la houle et le sel, pour espérer un jour revoir toutes les filles de La Rochelle. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 diam, la diam, la bam, bam. Tous les marins sont des chanteurs, la la la. Que l'on se souvient de Mimi, Dédé et Jeannot, ces gars si fiers d'être marins qui ont péri sur leur rafio. Tous les chanteurs sont pas marins, nia-na-na-nia-ma-nia-ba-ba-ba. Tous les marins sont les chanteurs, nia-na-na-nia-na-na-na-na. Donner force et courage, ils se disent qu'ils voient du pays. Buvons l'air frais au bastingage et qu'ils sont heureux d'être en vie. Tous les marins sont des chanteurs, na 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 na. Tous les marins sont des chanteurs.
Sont des chanteurs, François Morel, Bernard Lavilliers, une chanson signée Yves-Marie Le Guilvinec. Vous connaissiez ce poète breton, chanteur, marin?
Non.
Non? Vous le présentez? François Morel?
Un marin, né en 1870, contemporain de Théodore Botrel, auteur d'une chanson qui s'appelle Botrel, c'est la Pimpolaise.
Et lui, c'est la Cancalaise.
Voilà, qui a été écrite avant la
Pimpolaise. Avant la Pimpolaise, mais la Pimpolaise lui a amené le pion.
J'aime Pimpol et sa falaise.
Il
n'y
a pas de falaise à Pimpol.
Mais non, son église et son grand pardon. En fait, c'est marrant parce qu'en en écoutant Théodore Botrel, de qui j'avais une image épouvantable, je crois, à raison, parce que c'était pas, enfin, il était un folkloriste antisémite, anti-Dreyfusard, etc., pas très sympathique, mais quand même, il écrivait bien. Et notamment, j'ai entendu récemment une chanson mais j'ai oublié le nom de la chanson. C'est intéressant ce que je dis parce que j'ai oublié le titre de la chanson.
Ça me rend...
Et je suis pas sûr que ça me revienne.
Ouais, les auditeurs vont nous le dire. Vous dites que Bernard, est-ce que Bernard Lavilliers le connaissait? Parce que vous dites, vous écrivez que Lavilliers, comme Alan Stivell ou Miossec, doivent tous quelque chose à ce Yves-Marie Le Guilvinec. Lavilliers, vous connaissez?
En général, je dis n'importe quoi.
Non, hein, vous l'avez écrit. Vous le dites pourquoi pas, mais vous l'avez écrit.
Oui, mais j'écris aussi n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que...
Lavilliers connaissait ou pas?
Non, pas du tout. Non, on n'a pas parlé. Quand on s'est vu, on n'a pas parlé de ça. On a plutôt parlé de Jean-Roger Cossimon. Parce qu'il aimait beaucoup Jean-Roger Cossimon, et moi aussi. Donc on a évoqué un auteur aussi qui est un peu oublié, qui a fait des chansons sublimes.
Mais vous êtes un spécialiste hein, des auteurs oubliés.
Oui. Mais je crois que j'étais le premier à parler d'Yves-Marie.
Ah, ça, je peux vous le garantir. C'est un hommage aux pêcheurs bretons, aux femmes de marins aussi, qui prennent leur temps en dehors de leur mari. Il y a une petite chanson là-dedans. Quel lien, vous, avec ce sujet, en fait?
Je crois que moi, en fait, mon métier principal, je crois que c'est d'être comédien. Et j'adore me déplacer. Et le fait de, parfois, de changer de personnage, de me regarder un peu, d'aller un peu plus loin, ça me permet sûrement de dire des choses que je n'écrirais pas moi-même ou que je ne dirais pas moi-même. Donc, je me suis dit, les chansons de marin, les chansons qu'on chante dans les bistrots à plusieurs, qu'on reprend ensemble, ce sont des moments de vie formidables. C'est-à-dire, ce sont, surtout à cette époque-là, c'est des gens qui partaient sur 8 mois, 9 mois, etc. C'était des ruptures immenses, des retrouvailles. Enfin, c'est des moments de vie formidables. Et donc, je me suis dit, moi, je vis pas ce genre de choses-là. Je pars en tournée des fois 3 jours, mais enfin, je reviens assez vite. Et donc, je me suis dit, c'est un joli sujet.
Alors, il n'y a pas que la vie des marins qui est un sujet, c'est aussi le personnage, un personnage assez pittoresque. On apprend plein de choses. Lui, il est mort à 30 ans, donc en mer en 1900. Sa mère est morte centenaire. Il a eu une éducation religieuse au point qu'on l'appelait fils de curé. Une fratrie nombreuse aussi, mais c'est un carnage. Je lis son frère. Jean-Marie, engagé dans la Royale, périt en mer. Pierre-Marie, l'autre frère. Saleur à bord du Rabouilleur, périt en mer. Marie-Joseph, morte en couche. Anne-Marie, sœur Clarisse, morte au couvent de Saint-Cadreux. Marie-Pierre, sardinière, elle mourra à Paris prostituée. Marie-Paul, partie de la maison à 16 ans, disparue sans laisser de traces. François-Marie, assassiné dans une risque au Fesnos de Saint-Jacut. Et Jacques-Marie, agriculteur célibataire, suicidé. Putain, la famille.
Ah oui, c'est vrai. En même temps, vu que Yves-Marie, il est mort en 1900, c'est normal que tous soient morts.
Non, mais ils sont morts suicidés, assassinés. Ah, bah oui. Mais c'est surtout ça, quoi.
Périt en mer. C'était très tragique. Mais... celui qui a fait des grandes recherches là-dessus, quand même, c'est Gérard Mordillat, parce que ça serait pas juste de ne parler que de moi comme auteur, parce que je l'ai fait avec Gérard Mordillat et Antoine Salaire.
Et alors, il y a quelque chose, je me suis dit, parce que, au fond, au début, moi, je ne connaissais pas, bien sûr, ce poète breton, donc je me suis dit que vous l'aviez peut-être inventé. J'ai regardé, j'ai vu que non, vous ne l'aviez pas inventé. Et pour autant, je me suis dit aussi que ça vous correspondait, parce qu'on trouve des choses qui pourraient vous plaire, par exemple.
Comment vous avez vu que je l'avais pas inventé?
Parce qu'on a regardé sur Internet.
Ah oui.
Et on a trouvé quand même des petits documents, que ce soit vous qui les ayez remplis.
C'est pas vous voir.
Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a des choses, mais quand je les ai lues, je me disais, mais c'est pas possible. Il participe au concours Félix Potin en 1898 pour promouvoir le beurre salé breton qui avant se vendait de point de vue local et pour agrandir le commerce. Il y avait un concours et il a écrit quelque chose. Toutes les filles de Plouer ont un très gros derrière, comme les filles de Plélin ont toutes de gros seins. Ah ah ah, qu'il est bon, le beurre salé breton. C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, il l'a tout inventé.
C'est une époque, hein. C'est-à-dire, c'était avant le mouvement MeToo. Hein.
Je crois.
C'est sûr.
Il n'a pas écrit que des belles choses. Hein.
Non, mais manifestement.
Puis il a écrit surtout la première version de Avec le temps, qu'il a fait en.
Alors, c'est ce que vous racontez en
version majeure. C'était une publicité qui est avec le ton.
Avec le ton.
Avec le ton, avec le ton, oui, tout est bon.
Non, mais c'est ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, même ce qu'on. Non, mais je suis à deux doigts de me demander si vraiment vous n'avez pas inventé ce.
Quand même, alors vous. Quand même, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Laurent?
Justement,
vous n'avez aucune confiance en moi.
Donc, ce que j'aurais pu lire sur Internet serait complètement faux. Je ne saurais rien ce soir.
Rien.
Alors, il y a un autre livre qui vient de paraître qui peut nous éclairer sur votre mentalité, c'est le Dictionnaire amoureux de l'inutile. Et là, pareil, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des choses qui sont inventées. L'autobouze, par exemple.
Ah non, ça, je l'ai trouvé. Ah, ça, ça existe. Ouais. C'est...
Vous dites à Raphaël
Lanader,
qu'est-ce que c'est l'autobus? C'est-à-dire, c'est un grand champ. Voilà, un grand champ, on fait des carrés avec de la chaux, j'imagine, pour faire des
pour
grands
carrés. Pour les dessiner,
ouais. Ouais, pour dessiner des grands carrés au milieu. Et puis, vous lâchez quelques vaches. Vous mettez des chiffres sur chaque case. Et puis, les vaches bousent. Mm-hmm. Et si vous avez dit, tiens, elle va bouser sur le 5, vous gagnez, je sais pas, un cochon, ouais. C'est un cochon du site boucher, enfin des choses comme ça.
Par des phares.
Et ça, c'est vrai.
Bah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on va inventer une chose
pareille?
Mais non, enfin, comment?
Et le lancer de bigorneau, vous ne l'avez pas inventé non plus?
Non plus.
Mais c'est quand même fou. Ça, c'est une spécialité bretonne.
Ça, c'est vrai, ça s'est passé en Bretagne. Oui, oui, oui. J'ai même correspondu un peu avec le. Parce que le monsieur qui était champion est décédé. Ça, voilà, vous avez deux nouvelles en même temps. Et donc son fils m'a contacté pour me dire qu'il a essayé de reprendre le flambeau de son papa.
Comment on lance un bigorneau?
Alors moi je sais pas vraiment. J'ai jamais essayé parce que moi j'aime bien ça les bigorneaux. Donc
on les lance avec la bouche, c'est ça? En fait on les crache.
Parce que sinon vous voulez faire comme
je sais pas, les lancer comme ça, enfin à la main.
Ah non, avec la bouche.
C'est ça, on les crache. Ouais,
d'accord. On a l'impression d'être chez Plonky.
Non mais c'est vraiment bizarre. C'est faux. Non, après il y a question beaucoup plus intéressante et moins pittoresque.
Moi j'aime beaucoup votre question. Moi,
c'est la chanson. Ah oui, qui est dans ce dictionnaire de l'inutile. Et une chanson, il y a avec cette question, ça sert à quoi? Ou c'est quoi une bonne chanson? C'est quoi une bonne chanson pour vous, justement, François Morel, qui posait la question dans ce dictionnaire de l'inutile?
C'est une chanson qui a une utilité. Par exemple, une chanson pour que deux êtres se rapprochent. Une chanson, ça peut servir à endormir un petit enfant. Qui a besoin de sommeil. Une chanson, ça peut être pour
donc dire une chanson qui remplit sa fonction, en fait.
Ouais, moi je crois, enfin une bonne chanson, ouais, c'est quelque chose, ouais, c'est une chanson qui nous touche et qui trouve des oreilles qui font que on est touché parce qu'on raconte. C'est pas très bien.
Quelles sont les premières chansons que vous avez entendues, vous? Vous vous souvenez?
Moi, je me souviens des chansons de Guy Béard quand j'étais petit. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Ouais. C'est des belles chansons parce qu'on a l'impression qu'elles auraient pu être écrites 3 siècles avant, ou la semaine d'avant.
D'accord, oui.
Ouais, non, vraiment. Oui. Enfin, c'était pas pour dire une méchanceté. Au contraire, c'est des chansons qui sont un peu éternelles comme ça. Je trouve que Guy Béard, il avait ce talent-là. Ouais, je sais pas. Je chantais. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du carton. Ça, c'est une
Christophe.
Chanson. Ouais, Christophe. C'était les premières chansons, mais enfin, je sais pas trop. Marcel Amon. On écoutait Marcel Amon, les compagnons de la chanson. Je sais pas. C'était ce qu'on écoutait dans les années 60.
Et vous, Raphaël Lanader, les premières chansons que vous auriez
écoutées? Enfin, c'était des chansons qu'on écoutait quand on était vraiment petit
oui,
enfant.
Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Et vous?
Moi, je crois que les premières chansons, c'était Brel. Parce que ma mère vient de la Meuse, d'un tout petit village qui s'appelle Montmédy, presque à la frontière belge, et je crois que Brel avait une saveur particulière, comme des comptines, presque. Il racontait vraiment le pays, et je crois que l'utilité était celle-là, il racontait les chagrins de ce pays. Je sais pas. Et je crois que pour moi, une bonne chanson, c'est aussi ça, c'est un compagnon dans la vie. Quand on en trouve une comme ça, elle fait le voyage avec soi. C'est chouette.
François Morel, en spectacle, ça pourrait donner quoi, justement, François Morel qui chante Yves-Marie, le Guilvinec? Il y aurait les chorales, des amis, les chorales bretonnes, tout ça est prévu?
Oui, oui, oui. Normalement, on aurait dû être sur scène, ben,
oui,
évidemment.
C'est ça.
Ouais. Mais on devait être à la Scala.
À Paris?
Oui, à la Scala, Paris.
Vous aviez aussi des dates à la Scala, oui.
La Scala, non, l'année dernière.
Ouais. Ah oui,
ouais.
Avec Thomas Jolies.
Ouais.
Ouais. Ah oui. C'était quel spectacle?
Un spectacle qui s'appelle, on devait être en train de le jouer là, on devait le reprendre début janvier, Un jardin de silence. C'est un hommage à Barbara.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
C'est une de ses expressions. Qui s'est joué déjà là-bas à la Scala.
Ouais, oui, 3 semaines.
D'accord.
L'année dernière.
Ah bah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, avec enthousiasme.
Chouette.
Ouais.
Des concerts ont été reportés, des prochaines dates pour vous ?
Bah oui, mais on sait pas.
Vous savez toujours pas, ouais. On sait pas, quoi. Ouais.
Bah non. Sinon, il y a plein de dates, ouais. Mais sinon, le spectacle, il est presque fait. On l'a quasiment répété. Il y aura un conférencier, il y aura deux musiciens, il y aura une chorale. Et il y aura moi.
Une chorale bretonne ou la chorale des amis avec
la chorale des gens qui... Ah non, pas la chorale des amis.
C'est la chorale des amis, elle est super là-dedans. Ah ouais. Ouais, ils y sont tous.
Pas tous, mais quelques-uns.
Mais avec des noms, Patrick Pelou, Ernest Pignon Ernest, Gérard Mordilla, bien entendu. Ouais.
Ouais, Gérard Mordilla, en fait, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup chanté dans la chorale, parce que depuis, je l'ai écouté chanter. Je lui ai dit, c'est mieux que tu bouges les lèvres, mais que tu ne sors pas de son.
François Morel, vous restez avec nous. Comme vous êtes de la maison, vous avez pu consulter la playlist de France Inter. On vous a demandé votre choix, qui s'est porté sur Laura Kahn, son titre Cavale. Un mot sur ce choix.
C'est-à-dire que j'avais envie de découvrir, parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais, et là, je connaissais pas bien. Donc je me le suis mis juste un peu dans ma voiture, j'ai dit « Oh, quelle jolie voix !» Et je me suis dit « Oh, ça va être chouette d'entendre ça !»
Eh bien parfait, alors on découvre avec vous Laura Kahn, le choix playlist de François Morel. Laura Kahn, Cavale dans Côté Club, avec une voix qui rappelle justement notre invité, Raphaël Lanader. On en parle tout à l'heure.
Côté Club.
On pourrait écouter chez moi ou dans un club.
Sur France Inter.
Et tout de suite, la chronique de François... Oh non, la chronique de Marion Guilbeault.
Ah, le trac, ça y est, ça commence. Bon, on va rester en Bretagne, on va être dans une conserverie de poissons. Il y avait déjà eu quelques chansons sur le monde ouvrier, je suis sûre que vous en connaissez tous autour de cette table. Mais le disque qui nous occupe ce soir, lui, est beaucoup plus radical que les corons ou que le poinçonneur des lilas. C'est un disque du 21e siècle, un siècle qui a vu les conditions du travail en usine se détériorer dramatiquement. Et c'est cela qui anime les 17 titres de ce disque à la ligne Chansons d'usine.
Fantastique, tout ce qu'on peut supporter. C'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter. C'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter.
C'est fantastique, c'est issu de À la ligne. À la ligne, c'est avant tout un livre puissant, paru en 2019. Il est signé Joseph Pontus. C'est un premier roman sur un éducateur spécialisé qui débarque en Bretagne, qui ne trouve pas de boulot, et qui finalement embauche dans une conserverie de poissons, et puis dans un abattoir. Et c'est le récit d'un déclassement, écrit sans ponctuation, telle une longue litanie.
Je ne sens plus l'odeur de l'usine, qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu, je n'en parle plus qu'en disant mon usine. Divagant dans mes pensées, seul déterminé. J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne.
Ce livre, c'est Michel Kloup du groupe Diabologum et Pascal Boisise qui œuvrent dans Brunoir et Mendelssohn qui s'en sont emparés. Alors ces deux musiciens partagent des valeurs d'indépendance, d'engagement et ils s'étaient déjà confrontés au sujet de la condition ouvrière dans leur précédent projet. Ils ont choisi une option musicale à la mesure de ce que vit l'ouvrier de ce roman. Radical, parfois brutal, une musique traversée de l'arsène, de batterie mécanique signée Julien Ruffier, des phrases répétées comme des mantras pour mettre en scène la violence de la cadence, le combat humain-machine. Ça prend à la gorge, on sent les odeurs, on entend les bruits, on mesure l'enfermement.
Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu. Cutter, ouvrir les sachets. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve, dans un coin de l'atelier. Celui qui n'a jamais goûté de tofu pendant 9 heures ne pourra jamais comprendre. Ne pourra jamais.
Le tofu, on risque de ne plus du tout lui trouver le même goût après ça. Mais je vous le disais, Joseph Pontus a eu une vie avant l'usine. Il parvient donc à y trouver une poésie, à injecter de l'humour dans ce quotidien répétitif, abrutissant. Il arrive même à rêver d'une fraternité, d'un ailleurs. Et c'est aussi cela qu'apportent Michel Kloup et Pascal Boisise, cette recherche d'humanité, en orchestrant ce disque entre chansons, rock, lecture musicale, un duo dans le respect de son sujet, qui réussit ainsi à créer de la mélodie, à amener le calme, un vrai miracle dans cet univers hostile, une éclaircie.
Pensent mes collègues en triant leurs crevettes. Quelle chanson entêtante encombre leur crâne. Où prennent-ils plaisir fredonner?
J'entends parfois à travers les bouchons d'oreilles et le bruit sourd de l'usine, monté du Balavoine, du Christophe Maé, se demandant où est le bonheur.
suis Véronique Sanson. Des gens populaires.
Sous les masques, quelle est leur vie? Derrière les gestes automatiques, les entraides ouvrières.
Autant de crevettes.
Travailleur de l'usine, voilà, c'est une des chansons de À la ligne, chanson d'usine, un livre au départ de Joseph Pontus, signé Michel Cloupe, Pascal Boisiz, Julien Ruffier. C'est disponible sur le label Ici d'ailleurs. J'ai l'impression que vous avez été sensible, Raphaël Lanader.
Ouais, ça m'a bien plu projet. Et je vous disais, je trouve que c'est rock et en fait, moi j'aime bien le rock et je trouve que c'est pas très à la mode et j'aime bien entendre.
Ouais, un son brut bien. Comme celui-là. Ouais.
Bienvenue à vous, Raphaël Lanader, ou Elle. Comment on dit? Parce qu'on n'arrive plus à savoir.
Ah, si, on le sait très bien.
Premier album, Elle. Deuxième album, Raphaël Lanader. Troisième et quatrième, Elle.
Absolument. Donc, et puis là, sur cet album, j'en fais une chanson.
Exactement.
Alors là, on ne peut plus douter.
On ne peut plus douter. Non. Donc, Elle, qui fait avec nous 10 ans de musique. Le premier album, c'était en 2011, une autre époque. Vous vous souvenez de la sortie?
Ah bah, comment oublier?
Ouais. Dans quel état vous étiez, si vous étiez allé voir l'album dans les bacs, si vous écoutiez la radio?
Oui, bien sûr, oui. Mais surtout, je planais complètement. Moi, j'étais très peu consciente de ce qui se passait, de ce qui m'arrivait, très heureuse, mais très inconsciente.
Surtout que pour le premier album, ça s'est très très bien passé.
Ça, oui.
Le deuxième, il y a eu un peu revers de la médaille, voilà. Parce que vous aviez changé, hein, direction électro, donc ça avait été un peu moins bien perçu par...
C'est-à-dire que...
Bah oui, on vous attendait dans la grande tradition de Barbara, que vous aviez amorcé avec le premier, et le deuxième...
Et en fait, j'en avais marre, ouais. Je crois. Et puis surtout, il y a quand même, il me semble, en tout cas moi, ce que je percevais de tout ça, c'est... qu'on me renvoyait quand même une image de chanteuse un peu éthérée, comme ça, un peu distante. Et je crois que je suis pas ça du tout.
Mais pas du tout, parce que les textes étaient impliqués et engagés dès le premier album.
Absolument.
On va y revenir. Alors, Paysage, c'est le nouvel album. La sortie a été reculée à cause du confinement, de la période difficile qu'on vit. Beaucoup de choses vous sont arrivées, d'ailleurs, qui teintent ce nouvel album. La maternité, ça a eu un effet sur cet album?
Ah oui, bien sûr. Déjà, il y a une chanson dédiée à mon petit qui s'appelle Abel. Voilà.
Qui ouvre l'album, hein.
Ouais. Non.
Non,
non, c'est la...
Ah, ça a changé, alors. L'ordre qu'on avait, nous, c'était...
Ah bon?
Ouais, sur le SoundCloud, moi, il me semble que ça commençait par...
Un changement de lieu aussi, de résidence. Vous vivez à Vannes.
Absolument.
Pour quelle raison vous avez choisi
plus
cela?
Plus proche de Redon, ouais, en fait.
Entre Redon et Vannes.
Vraiment dans un hameau minuscule entouré de bois. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps, une vingtaine d'années, que je vais en Bretagne et que je suis tombée très, très amoureuse de ce pays. Et c'est un endroit vraiment où je me sens bien. Et ça fait depuis... je pense 2013 que j'ai commencé à vouloir quitter Paris. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je n'y vis plus.
C'est pour cette bonne raison qu'il s'appelle aussi Paysage.
Absolument.
Mais aussi un nouveau label, parce que jusque-là, vous étiez porté par Tôt ou Tard, c'est ça?
Et oui.
Et il y a eu des limites à cette collaboration?
Eh ben moi...
Vous ne vous retrouviez plus dans la direction artistique ?
Oh, pas, c'est pas la direction artistique ni humaine, parce que individuellement, c'est tous des gens extraordinaires et je garde beaucoup d'estime, d'affection pour eux. En revanche, je crois qu'on n'a pas bien travaillé ensemble, ni sur le deuxième, ni sur le troisième album. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai perçu les choses et j'avais envie d'être totalement autonome et indépendante.
Et donc, l'indépendance, ça donne ce son.
Je partirai pas trop loin de toi, de moi, de nous, tu sais, de nous, tu sais. Je partirai pas sans avoir semé des cailloux sur le chemin qui te reliera. Et si je me taille, c'est pour entendre l'océan chanter plus fort, c'est pour écouter dans le soir le cri des chouettes encore, avant que tout déraille, avant qu'il soit trop tard. Mais tu viendras.
Signé Elle, une chanson écrite pour votre frère qui n'a pas apprécié votre départ pour Vannes.
Pour la Bretagne.
Pour la Bretagne. Il est venu depuis ?
Oui, bien sûr.
Donc il vous a pardonné, tout va bien ?
Ah oui, je crois, j'espère.
Très bien. Donc une chanson écrite pour le frère, une chanson écrite pour le fils, mais c'est aussi un album traversé par des figures de femmes, Billie Holiday. Pour quelle raison Billie Holiday ? Un texte de Babix d'ailleurs.
Une chanson de Babix, une musique aussi. Ouais. Alors d'abord je suis très heureuse parce que ce salaud c'est la première fois qu'il m'en donne une. Alors que
vous vous connaissez depuis très longtemps.
Une petite vingtaine d'années maintenant. Et à l'époque, lui écrivait déjà et chantait déjà. Et en fait, on s'est rencontrés chez sa mère puisque c'est sa mère Martina Catella, la prof de chant dont on parlait tout à l'heure. Et c'est lui qui a eu cette idée saugrenue de me dire « Ah, il faut que tu écrives des chansons ». J'ai dit « Ah d'accord, bon, pourquoi pas ?» Et voilà. Donc je m'y suis mise, mais au tout début, il était question peut-être qu'un jour il m'écrive un album.
Donc il a fallu attendre.
Et finalement, il m'en a jamais écrit, mais ce qui était fort bien, puisque ben, je m'y suis mise.
Exactement. Billy Holiday, pour quelle raison il vous écrit un texte sur Billy Holiday ?
C'est pas la première fois. Quelque part, dans un de ses vieux albums, il y a une chanson qui s'appelle Lady L, qui dit Lady L écoute en boucle, Lady L écoute Lady Day en boucle en regardant. C'est les deux yeux fermés, son cœur éclaté dans le vent, etc. Bref.
Et Lady L, c'était vous.
Voilà, à l'époque, bien sûr. Et parce que je l'aime profondément, Billy Holiday.
On a aussi Adèle Haenel, la situation des femmes kurdes en Syrie. Alors on se dit, un texte engagé, un disque engagé. Mais c'est pas la première fois justement, parce que dans Initial, le premier, moi je me souvenais de Petite Histoire. De Petite, c'était l'histoire Petite. D'une prostituée ouais. sans papier. Plus tard, il y a une chanson sur la lutte contre la mafia sicilienne. Je me souviens aussi d'Orlando, une tuerie donc aux États-Unis dans une boîte gay. Donc ces textes-là apparaissaient. Cette conscience politique et citoyenne, c'est une histoire de famille ou c'est votre propre construction, elle ?
Oh, certainement que ce qu'on racontait à la maison et que l'intérêt de mes parents lisent énormément les journaux, écoutent beaucoup la radio depuis toujours. Donc je pense que ça a eu une incidence sur mon intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Mais c'est venu très tôt. Je crois que quand j'étais toute petite, en fait, avant de vouloir faire de la chanson, et pourtant je chantais déjà, je voulais peut-être être une femme politique. J'ai bien changé d'avis depuis. Mais...
Vous aviez donc entrepris de faire, par exemple, Sciences Po ou l'ENA ?
Ouais, ouais, tout à fait.
Ah bon ?
Sciences Po. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et vous l'avez
J'ai fait une prépa. Non. Non, non, mais j'ai pas. En fait, j'avais commencé le chant chez Martina et puis finalement, je préférais tellement faire de la musique.
Et vous, politiquement, comment vous êtes construit, François Morel ?
Moi, je me déconstruis tous les jours.
Chez Baron Noir.
Bon, comment je sais pas. Bon,
chez vous, il y avait ouais, cette bon, dimension-là ?
Mon papa était cégétiste, on en parlait par les politiques un petit peu, oui. Et puis après, je suis allé à la fac, donc j'ai continué à entendre parler des politiques. Ça m'a toujours intéressé, je lis les journaux et le monde m'intéresse, oui, un peu.
Alors le monde intéresse spécialement Raphaël Lanader, notamment dans cet album, parce que c'est très frontal cette fois-ci. Il y avait quelques chansons qui étaient disséminées dans les albums précédents. Et je me demande si, par exemple, le mouvement MeToo a été révélateur pour vous pour affirmer vos positions aujourd'hui. Alors même qu'elles existaient, mais pas de façon aussi radicale.
Oui, je me sens beaucoup plus légitime à revendiquer, par exemple, que j'écris des chansons engagées.
Alors c'est qu'avant, c'était
que
un
ça
gros
que
mot
je fais, hein, c'est pas... Ben, je sais pas, avant j'avais une espèce de pudeur par rapport à ça, je trouvais, je sais pas, même il y a encore 10 ou 15 ans, me dire féministe, et pourtant je sais que je l'étais, indubitablement, mais je l'aurais pas forcément osé me le formuler à moi-même comme ça. Aujourd'hui, ben si, et c'est merveilleux parce que c'est, en fait on se sent tout d'un coup appartenir à un mouvement qui est plus grand que soi. Et je trouve que ça, c'est très porteur, c'est gay, et puis, il y a une sororité comme ça qui naît, on se...
Que vous avez mis en place depuis pas mal de temps, hein. Sandra Nkake était déjà intervenue sur un album, Camilla Jordana, Jeanne Haddad...
Oui, bien sûr, bah, sur Orlando, elles avaient
exactement, elles avaient chanté une sorte de chorale comme ça, puis plus tard, vous êtes retrouvés pour des protestants.
On l'avait déjà fait avant, oui, bien sûr, on a un quatuor toutes les...
Le geste d'Adèle Haenel a été suffisamment important pour vous pour que vous lui consacriez une chanson.
Moi, je l'ai trouvé extraordinaire, en fait, ça m'a foutu les larmes aux yeux immédiatement et les poils.
Au César, hein, quand elle s'est levée et qu'elle s'est cassée.
J'ai écrit le texte le soir même. Vraiment, j'étais transportée. Et j'ai eu envie de la remercier, en fait. Je trouve que, symboliquement, cette idée que n'importe quelle gonzesse peut se lever et se casser quand ça, c'est trop, je trouve que c'est vraiment une liberté qu'elle donne à chacune d'entre nous. Et je voulais la remercier pour ça.
Elle l'a entendu ?
Eh bien, figurez-vous que oui, grâce à... En fait, là, on a... l'album est sorti vendredi avec un clip sur cette chanson, réalisé par une jeune femme de 20 ans. Enfin, moi, je le trouve merveilleux. Elle s'appelle Camille Scali. Et bref, on a envoyé ce clip pour le dédier à beaucoup de féministes avant qu'il sorte, pour les remercier de leur combat. Et on l'a envoyé notamment à, je vais citer son nom parce qu'il y a pas de, je pense pas que ce soit secret, Nadège Bossandianier, que je ne connaissais pas, qui m'a fait un retour enthousiaste et qui m'a dit, l'avez-vous envoyé à Adèle Haenel? J'ai dit oui, mais
pas sur, de réponse,
sur Instagram, oui. Je ne sais pas, voilà. Et elle me dit, Adèle n'est pas sur les réseaux. J'ai dit, ah, si jamais vous la connaissez, si vous le pouvez, est-ce que vous lui transmettriez, elle m'a dit je lui envoie, et 2 heures plus tard elle m'a dit, pouvez-vous me donner votre mail, Adèle va vous écrire. J'ai reçu un petit mot d'Adèle Haenel.
Très bien.
Délicieux, extrêmement chic, extrêmement... je sais, ça m'a vraiment bouleversée. Elle parle d'engagement, d'encouragement mutuel, et voilà, j'étais très touchée.
Alors je vais vous poser la question qui fâche. La sororité est très importante pour vous, mais autour de vous, les violoncellistes Guillaume Latil, ouais. Julien Lefebvre, le guitariste Antoine Montgadon, le batteur Frédéric Jean, Jérôme Poulouin, qui est l'ingénieur du son, Clément Ducol. Et sur scène, il y aura des femmes quand même?
Non.
Bah non, c'est. Mais ça, c'est parfait.
Qu'est-ce que je sais pas quoi vous dire de ça. Je suis vraiment féministe, je pense.
Mais ça n'a rien à voir.
Et j'adore les hommes. J'aime beaucoup leur compagnie et leur. Je suis, et puis en plus j'ai beaucoup de chance, je suis entourée d'hommes très féministes, et d'ailleurs chacun d'entre eux a été mu par le mouvement MeToo, par tout ce qui s'est passé, a réfléchi, s'est posé des questions, enfin moi je suis très touchée par les bons hommes qui m'entourent.
Ah ben c'est parfait, merci Raphaël Lanader. On va se quitter merci avec vous. Un dernier duo, Benjamin Biolay et Juliette Armanet. Benjamin Biolay qui est un des héros des prochaines Victoires de la Musique le 12 février, il est nommé dans 3 catégories, artiste masculin, meilleur album, meilleure chanson. Il embarque Juliette Armanet qui était avec nous hier dans Côté Club, rue Saint-Louis en Lille, c'est pas loin de la Maison de la Radio et de la Musique.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs de faux refrains, pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sable. Je me souviens de ton dos de Saint-Louis en Lille, puis rien de rien, plus un mot, un bâton de cire. Je me souviens chagrin, te dire que j'ai un chat persan qui se niche au fond de ma gorge. Un couplet aux airs, des faux refrains qui sent ni la sueur ni le sang, pareil au chant du rouge-gorge. Une chanson qui jouxte mes prières pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une épave et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le noir des pyramides. Thank you.
savez bien sûr qui habite rue Saint-Louis en Lille, François Morel.
Brigitte Fontaine.
Exactement, que vous avez rencontré.
Une fois, chez elle. J'ai eu cette chance extraordinaire d'écouter La Mémoire et la Mer de Ferré avec elle.
Elle vous avait cité dans pas mal d'entretiens à l'époque, ouais. Je me souviens de ça. Allez, c'est la fin de Côté Club. Merci François Morel.
Merci.
Vous chantez Yves-Marie Le Guilvinec, c'est le CD. Il y a un livre, Tous les marins sont des chanteurs, chez Calman Lévy. Et je rappelle ce dictionnaire amoureux de l'inutile chez Plon. Et on vous donne rendez-vous vendredi sur France Inter. Vous serez là?
Oui,
sûrement. Il faut bosser la chronique. Elle, merci à vous.
Merci beaucoup.
Nouvel album Paysage. Et puis on attend les dates pour la tournée avec la mise en scène de Thomas Joly. Et bravo pour ces 10 ans de musique. Oui, ça se fête. Marion ?
À la ligne, c'est le roman de Joseph Pontus. À la ligne, chanson d'usine, c'est le disque signé Michel Cloupe, Pascal Boisiz et Julien Ruffier. Il est disponible sur le label Ici d'ailleurs.
Côté club, c'est toute une équipe soudée. Juliette Médevielle à la réalisation, à la technique, Gilles Gaillard, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rosic, les rois et reines de la programmation, avec la collaboration de Margot Terre et bien sûr Muriel Pérez, la reine mère des playlists. Demain à 23h, on a rendez-vous avec Suzanne. Elle est nommée aux Victoires de la musique. Rilès, pour vous Marion.
Tilassine, qui signe la BO de OVNI.
Allez, côté club, on ferme.